RCF.
Vous écoutez RCF, c'est l'heure du 18-19 en région, présenté ce soir par Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le magazine régional sur RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, à nos amis qui nous écoutent en région depuis chez eux, ou qui nous écoutent peut-être en voiture, ou qui nous écoutent aussi via le DAB+, la radio numérique avec RCF Champagne-Ardenne. On est très heureux de vous accompagner ce soir jusqu'à 19h, je ne suis pas seul. Il y a du monde dans ce studio, dans un instant il y aura Jean-François Boulanger pour parler du pèlerinage des malades, c'est une chronique consacrée à Lourdes, l'épisode 2, mais il y a aussi Manon Bréval, notre stagiaire à la rédaction. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis.
Météo, nouvelles sportives, tout un programme ce soir dans ce magazine pour vous.
Exactement, bon, avec le sourire.
Avec le sourire parce que la joie se partage sur RCF, bien évidemment. Un maire qui vous parle, on ira du côté de Grandchamp dans les Ardennes ce soir avec Bernard Portier. Nous parlerons en deuxième partie d'émission de Greenland, le parc d'attractions avec l'univers du Père Noël. Ça va être une superbe découverte. Nous serons également avec Franck Talleux, directeur de l'enseignement catholique interdiocésain pour les diocèses de Reims et des Ardennes et de Chalon, et puis également une rencontre avec Céline Courtier et Arnaud Fayot pour évoquer le projet Maison Fraternité du cours Saint-François. Ça se passe à Chalon en Champagne. Voilà pour le sommaire de cette émission à 18h12. Du côté de la régie, on retrouve Fabrice Gironnet à la mise en onde et Thierry Delis qui est là pour le soutenir moralement, parce que c'est vrai, ce n'est pas simple quand il y a toute une équipe comme ça en studio à supporter qu'il faut lever les micros. On se demande à quel moment on va y aller. Fabrice qui garde le suspense, qui est attentif. Non, Fabrice, ne t'endors pas parce qu'on y va tout de suite à 18h12. Comme tous les mardis, on retrouve donc notre chroniqueur. Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Épisode consacré à Lourdes, le deuxième déjà, le pèlerinage des malades, puisque nous avons commencé cette série avec vous la semaine dernière et elle va se poursuivre pendant un mois, encore pendant deux épisodes, nous accompagner tout au long du mois de décembre. Les apparitions de Lourdes se produisent, si l'on peut dire, sur un terreau favorable, celui d'une religion, voire d'une religiosité populaire qui a vu les sanctuaires consacrés à la Vierge se développer à la lisière du terroir cultivé dans le prolongement, dans le culte ancestral païen où les fées avaient leur place. Comment passe-t-on à un pèlerinage bien particulier qui est le pèlerinage des malades, Jean-François Boulanger ?
Alors, effectivement, dans la religion populaire telle qu'elle existe à l'époque moderne et telle qu'elle persiste encore au début du 19e siècle dans les campagnes, et à Lourdes, on est dans ce cas-là, il existe de nombreux pèlerinages locaux provoqué par l'existence d'un lieu qui est souvent la périphérie du terroir, en forêt ou près d'une source, consacré à un saint qui est associé à la guérison de telle ou telle maladie. Et en fait, à ses débuts, Lourdes ne semble pas très éloignée de ce modèle-là.
Comment cela se produit-il précisément, Jean-François ?
Alors, tout a commencé dans un petit village qui est à 5 km de Lourdes et qui s'appelle Loubajac. Une paysanne du village, Catherine Latapi, dite Choua, âgée de 38 ans, tombe d'un chêne en octobre 1856 alors qu'elle faisait tomber des glands pour nourrir ses animaux domestiques. Et elle sort de cette chute avec les deux derniers doigts de la main droite pliés, paralysés. Elle ne pouvait ni les tendre ni les plier et donc elle va rester 18 mois sans pouvoir se servir de sa main, ni pour filer, ni pour tricoter, ni pour effectuer les soins du ménage. Et au début de l'année 1858, on commence à parler de Lourdes dans les parages, des apparitions, de la source qui vient de surgir à l'occasion des apparitions. Et de plus, Catherine était enceinte de son cinquième enfant, donc elle se posait la question de savoir comment elle allait pouvoir s'occuper de ce nouvel enfant. Et donc, dans la nuit du 28 février au 1er mars 1858, Catherine Latapi se sent attirée par la grotte, dit-on. Très tôt, le matin, elle part en direction de Lourdes, malgré les récriminations de son époux. Elle emmène avec elle ses deux petits-enfants encore très jeunes. Nous sommes le jour de la 12e apparition de la Vierge à Bernadette. Et en arrivant à Massabielle, Catherine prie, elle va vers le fond de la grotte et là, elle plonge la main dans un bassin rempli d'une eau encore mêlée de terre et aussitôt, les doigts retrouvent leur souplesse et leur mobilité. Et dans la foulée, si j'ose dire, elle ressent les premières douleurs de l'enfantement. Elle prie la Vierge de lui accorder une seconde grâce, celle d'avoir le temps de rentrer dans son village à Loubajac pour donner naissance à son enfant. Et les douleurs s'arrêtent. Catherine reprend le chemin du retour et parvenue à Loubajac, elle confie ses deux petits à une voisine et chez elle, elle met au monde un petit garçon qu'elle va prénommer Jean-Baptiste et qui sera d'ailleurs plus tard ordonné prêtre. Et donc c'est là le premier miracle de Lourdes, reconnu par l'évêque de Tarbes 4 ans plus tard. Et il serait donc, dit-on, à l'origine du premier pèlerinage enregistré à Lourdes le 25 juillet 1864, qui regroupe des paroissiens du village de Loubajac.
Alors on entend bien tout cela, Jean-François Boulanger, mais comment passe-t-on de pèlerinages locaux à un pèlerinage national, j'ose peut-être même dire international, Jean-François?
Voilà, alors effectivement, Loubajac, Lourdes-Loubajac, c'est 5 kilomètres, on est bien d'accord qu'on est dans le local au local. Mais le pèlerinage n'a pas tardé à avoir un écho national. On a vu l'autre jour comment le journaliste catholique Veuillot s'était rendu à Lourdes et avait franchi les barrières placées par le préfet pour interdire l'accès à la grotte pour aller prier dans la dite grotte dès l'été 1858. Et donc le 28 août 1858, il publiait dans le journal L'Univers, en première page et sur 5 colonnes, une relation détaillée des apparitions de Lourdes. Et des journaux du monde entier vont le suivre et publier des articles sur ce qui se passe à Lourdes. Mais ce qui va lui donner une véritable caractéristique nationale, c'est l'actualité politique et internationale. Parce que, après la défaite de 1870 face à la Prusse et la Commune de Paris, les pèlerinages se développent et vont prendre une tournure nationale, pas seulement au sens géographique du mot, mais au sens politique également, c'est-à-dire un pèlerinage qui a pour enjeu le destin de la nation. Voici comment, par exemple aujourd'hui, le site de l'association de Notre-Dame du Salut présente la naissance de la dite association qui est liée à Lourdes. Je cite « Au lendemain de la défaite de 1870, la France vit ce traumatisme comme une punition pour les fautes nationales. Autrement dit, ce serait l'éloignement de la France et de ceux qui la gouvernent, de la religion catholique, qui expliquerait la défaite. Et par conséquent, je cite toujours le site de l'association, très vite se développe un mouvement de rénovation spirituelle qui vise à prier et à agir pour le salut de la France. Et un des aspects les plus spectaculaires de ce mouvement, c'est la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Et en 1872, le père Picard, deuxième supérieur général des Assomptionnistes, et mère Eugénie de Jésus, fondatrice des religieuses de l'Assomption, fonde dans cet esprit donc l'association Notre-Dame du Salut, que je viens d'évoquer. Le premier pèlerinage qu'ils organisent a lieu à La Salette et a pour thème la conversion de la France. Il est donc très politique et d'ailleurs suscite de l'hostilité lors de son passage en gare de Grenoble. Et en 1873, les Assomptionnistes de Notre-Dame du Salut vont créer un bulletin de liaison qui s'appelle Le Pèlerin. C'est l'ancêtre du journal actuel. Et c'est peu avant que est décidé justement le pèlerinage national de Lourdes, qui n'est pas encore le pèlerinage des malades. Le premier pèlerinage des malades a lieu l'année suivante, en 1874. Il s'agit, et ce sera le cas pendant plusieurs dizaines d'années, d'offrir la souffrance des malades pour le salut de la France.
Dans cette perspective générale, quelle place pour les guérisons miraculeuses?
Alors, le pèlerinage est basé sur deux idées. La première idée, c'est que la souffrance des pauvres et des malades, ce sont souvent les mêmes, possède le même pouvoir rédempteur que la douleur subie par Jésus sur la croix. Deuxième idée, la guérison miraculeuse est un signe que Dieu accepte la souffrance en offrande et qu'il permet aux fidèles le salut de la France. Donc le pèlerinage va se trouver au confluent de ces deux idées. Les malades vont devenir plus nombreux. En 1880, on atteint le chiffre de 959. Dans les années qui suivent, ce sera la norme. Les pèlerinages diocésains vont s'ajouter à cela, avec eux aussi leurs propres malades. Je cite un texte local, « Le pèlerinage de Notre-Dame de Lourdes a subi, surtout depuis 3 ans, une de ses transformations les plus grandes et les plus touchantes. Cette année, un pèlerinage n'eût pas paru complet, nous sommes en 1880, sans les malades qui en sont devenus, d'une manière générale, le complément indispensable et le joyau. Le meilleur moyen et le plus court de refaire les paroisses, dit-il, serait un pèlerinage à Lourdes. » Autrement dit, la principale préoccupation des pèlerinages diocésains, ce n'est pas de sauver la France, mais de réactiver la vie paroissiale, mais dans les deux cas, il s'agit de créer et de maintenir une identité collective.
Quelle place donne-t-on aux pèlerins en bonne santé dans ce pèlerinage des malades, Jean-François?
Alors,
Boulanger,
effectivement, au départ, qui s'occupe des malades? Ce sont les petites sœurs de l'Assomption, j'en ai parlé tout à l'heure, et les Dames Servantes des Pauvres, c'est une association qui a été créée pour assister les petites sœurs, et ensemble, elles soignent les malades pendant le pèlerinage. Mais, dans les années 1880, l'augmentation du nombre des malades rend nécessaire d'organiser un groupe de bénévoles qui va se charger du quotidien des malades. Ce sera l'Hospitalité de Notre-Dame du Salut. Alors, cette association de l'hospitalité s'ancre dans une mémoire qui est celle des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean qui s'occupaient des malades de Jérusalem au moment des croisades. Donc on rétablit en quelque sorte un ordre de chevalerie. Et d'ailleurs, les statuts de l'hospitalité qui datent de 1885 disent que les personnes de la classe élevée doivent vous donner en France l'exemple du devoir et du sacrifice. En quelque sorte, le principe, c'est celui de noblesse oblige. Et donc, il s'agit de restaurer le lien social entre deux classes séparées, voire opposées. Ceux qui assistent les malades sont des aristocrates et les malades, ce sont souvent des pauvres. Donc, l'hospitalité est créée non seulement au profit des malades participant au pèlerinage national, mais aussi pour une certaine justice sociale. Et les membres de l'hospitalité sont des anciens du catholicisme social qui viennent souvent de la société de Saint-Vincent de Paul, des cercles catholiques ouvriers, mais en fait c'est des aristocrates, c'est pas des ouvriers, hein, ou du tiers-ordre franciscain. Et c'était, ajoutons-le, à l'époque, une structure exclusivement masculine. Donc voyez, au départ, je conclurai là-dessus, l'histoire des apparitions a été une affaire de femmes, des femmes du peuple en l'occurrence, hein, et voilà qu'à un moment donné, des hommes prennent une place importante dans cette affaire. Il faudra évidemment revenir sur la question des femmes, si je puis dire, et notamment sur l'évolution des figures féminines essentielles de Lourdes, que sont celles de Bernadette et de la Vierge, telles qu'elles se manifestent à Lourdes.
Et pour revenir là-dessus, Jean-François Boulanger, on aura encore deux émissions.
Absolument.
Pour ce pèlerinage à Lourdes. On vous dit à très bientôt.
À
merci
très bientôt
de nous raconter cette histoire.
Le 18-19 sur RCF.
Et la suite de cette émission à 18h22, c'est avec Bernard Portier, maire de Grandchamp dans les Ardennes. C'est le maire qui nous parle, le maire qui vous parle dans le 18-19 en Champagne avec Jean-Pierre.
Bernard Portier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Alors c'est l'occasion d'aller à votre rencontre dans le département des Ardennes à Grandchamp. Pouvez-vous nous présenter un peu votre commune de Grandchamp? Combien d'habitants? Où est-elle située, votre commune?
Donc Grandchamp, c'est une petite commune rurale de 92 habitants actuellement, qui est située entre Signes-Abbaye et Novion-Porcien sur la départementale 985.
Combien de kilomètres de Rethel?
On est à 17 kilomètres de Rethel, l'entrée de Rethel, côté du lycée agricole là-bas.
Ah oui, du côté, quand on est sur la 34, on voit justement le lycée agricole. Alors justement, agricole, monsieur le maire, vous êtes maire depuis combien de temps? Est-ce que vous avez toujours souhaité être maire? Comment ça s'est passé? Vous connaissez tout le monde, bien sûr, à Grandchamp.
Oui, bien sûr, je suis né à Grandchamp, donc voilà, il n'y a pas de souci. Je suis maire depuis mars 2008. Et donc, je suis au conseil municipal depuis mars 1983.
Et vous avez été adjoint,
J'étais premier adjoint avant depuis 3 mandats. Et donc, notre conseil municipal était renouvelé en 2008. Hein, notre ancien maire avait déménagé. Donc, il n'y avait pas énormément de prétendants pour
ouais,
poste,
vous avez pris hein, le relais.
Donc, voilà, quoi. C'est venu naturellement.
C'était quand même peut-être chez vous un esprit de service. Je vais quand même peut-être pas changer un petit peu les ordres des questions qu'on vous pose habituellement, mais il y a beaucoup de maires aujourd'hui qui abandonnent, hein, parce qu'ils trouvent que c'est quand même compliqué, surtout si on a une activité professionnelle. Vous-même, vous étiez en activité professionnelle quand vous avez été maire?
Oui, j'étais en activité professionnelle. Donc c'est vrai que c'est pas aussi simple quand on est maire et en activité professionnelle, parce qu'on ne peut participer aux réunions que le soir, après le travail bien sûr, et c'est beaucoup plus simple en étant retraité, où là on peut participer à des réunions de journée, on apprend des choses, pour des choses comme ça par exemple, c'est des fois plus intéressant de pouvoir participer à des réunions de journée. Quoi.
Alors, pas forcément... comment peut-on décrire Grandchamp aujourd'hui, votre commune? Le type d'habitants, est-ce que c'est des retraités? Est-ce qu'il y a des agriculteurs?
La commune de Grandchamp, il y a deux grosses exploitations en activité là, sur le village. Et après, c'est un bon quart de retraités, et puis après le reste des salariés, quoi. On a aussi 4 résidences secondaires, donc avec des gens qui viennent.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui ont décidé d'acheter, ou en tout cas de rénover, et d'habiter Grandchamp.
Oui, tout à fait. C'est beaucoup des gens, enfin des enfants d'habitants du village qui sont revenus ici. On a un petit peu d'autres personnes qui viennent d'ailleurs aussi. Hein, mais qui préférait le charme de la campagne plutôt que la ville, quoi. Et n'étant pas très très loin au niveau au niveau des distances, les villes qui emploient, Rethel, Reims, Charleville.
Oui, ils veulent être quand même à portée pour pas perdre trop de temps dans les transports, et puis ça coûte cher. Voilà. Alors, il y a les communautés de communes, Bernard Portier, aujourd'hui. Est-ce que, malgré tout, tous les maires disent qu'ils restent quand même très importants pour leur commune, mais est-ce qu'il est encore, entre guillemets, hein, le patron de la commune? Le maire, il est reconnu dans sa commune, mais bon, il y a quand même la communauté de communes qui prend beaucoup de décisions quand même aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Pour moi, la communauté de communes, c'est complémentaire à la commune. Nous, on a la chance d'avoir une communauté de communes, 94 communes, c'est une grande communauté de communes, mais c'est une communauté qui est essentiellement rurale, puisque la plus grosse commune des 94 fait à 1300 habitants. Donc voilà, ça reste quand même.
Et comment s'appelle votre communauté de communes pour bien situer dans les Ardennes?
C'est la communauté de communes des Crêtes Préardennaises.
Des Crêtes Préardennaises, bien sûr. Et d'ailleurs, on avait reçu un pas mal de maires, on avait reçu aussi Daniel Thomas de Mondigny qui nous en avait parlé. Mais vous êtes encore, c'est ça la question, le maire, le patron chez lui, je veux dire, on s'adresse à lui dans le village, surtout si vous êtes que une petite centaine.
Oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, le maire, on appelle le maire pour beaucoup de choses. Des fois, les problèmes avec les voisins, les problèmes de chiens qui traînent, et voilà, ou des renseignements sur un peu n'importe quoi, sur les aides pour les travaux, sur beaucoup de choses, quoi. Et donc, il y a aussi le travail de la secrétaire de mairie qui est important, quoi, dans une petite commune.
Alors, est-ce que vous avez des projets en cours? Est-ce que vous avez, pour les années qui viennent, les mois qui viennent, ou c'est en cours en ce moment, en disant, on va essayer, à grand champ, de faire telle ou telle chose? Est-ce que vous avez quelque chose, monsieur le maire?
Oui, tout à fait. Là, on est en train de finir le projet d'aire de jeu pour les enfants, là. C'est en train de se terminer, c'était le gros chantier de 2023, et pour 2024, on a le projet de rénovation globale énergétique du bâtiment mairie, logement communal, salle polyvalente, où là, ça représente aussi un gros travail et un gros investissement.
Et c'est là que la communauté de communes apporte sa contribution et surtout ses subventions. Oui ou non, peut-être pas.
Oui, un petit peu, mais surtout des aides techniques, quoi, que la communauté de communes amène dans ce cadre-là, quoi.
Alors, il y a l'aire de jeu, il y a bien sûr les économies énergétiques. Est-ce que, bon, sur le plan voirie, éclairage, enfin bon, vous avez, en ce moment, c'est stand-by, vous attendez un peu ou c'est déjà prêt?
La voirie, on vient de faire des très très gros travaux qu'on a terminé en 2021. Donc des travaux de bord de route, assainissement pluvial, passage PMR tout le long du village et avec également des ralentisseurs, donc des plateaux et une demi-écluse à l'entrée du village pour ralentir la vitesse, puisque le village fait plus d'un kilomètre de long et en général ça roule très vite, quoi.
Donc, ça traverse en vitesse, oui. Alors simplement, redemander, on n'a pas évoqué seulement sur le sujet, mère et vie professionnelle, vous arrivez à conjuguer les deux, mère et vie familiale, des réunions...
Oui, il faut avoir une épouse qui soit assez conciliante.
J'ai pas de conseil à vous donner, monsieur le maire, mais faites-la entrer au conseil municipal, comme ça vous serez tranquille, vous n'aurez pas de problème.
Mais il n'y a pas de souci de ce côté-là.
C'est formidable. Alors, évidemment, sur RCF, on est à votre disposition à tout moment, s'il y a quelque chose dans la commune, une fête, une kermesse, si vous connaissez un certain nombre de sujets. Est-ce que, c'est la question qu'on pose à chaque fois, est-ce que vous êtes un maire heureux? C'est-à-dire que malgré ces difficultés, on parle beaucoup des maires en ce moment, finalement on leur demande beaucoup de choses, et puis on n'est pas suffisamment reconnaissant vis-à-vis des maires.
Oui, il y a beaucoup de soucis au niveau de paperasserie, toutes les démarches et tout ça qui sont toujours longues avec énormément de documents à fournir. C'est vrai que c'est assez compliqué.
C'est le mal français quand même, ça. Pays aussi,
Ça, c'est pas que la mairie. Hein. C'est maintenant, c'est un peu partout, comme tous les organismes. Hein. C'est comme ça.
Mais écoutez, Bernard Portier, on est très heureux de vous avoir accueilli avec vous, bien sûr, tout votre commune, tous les comment s'appellent les habitants de Grandchamp pour finir?
Les Grands Champois.
Ah, les Grands Champois. Eh ben, à toutes les Grands Champoises et les Grands Champois. Et à bientôt sur RCF.
Au revoir Jean-Pierre Benoît.
Au revoir.
Et à tous les auditeurs en région, à 18h30, RCF Cœur de Champagne, RCF France Ardennes, c'est le journal régional. Avec les titres de ce mardi 5 décembre 2023, la halle rénovée de Vitry-le-François va accueillir son premier marché de Noël ce week-end avant que le marché hebdomadaire y prenne place également d'ici quelques semaines. Nouvelle rencontre avec une bénéficiaire du Secours catholique ce soir. Fatih a d'abord été aidée par l'association avant de s'engager comme bénévole. Portrait.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Vous le savez, la Flamme Académique est arrivée dans la Marne il y a quelques jours et l'on suit son parcours régulièrement. Ce mardi, en début d'après-midi, les élèves de l'école Gallieni de Reims ont transmis la Flamme aux collégiens en 6e de Raymond Sirot de Gueux. Les 150 collégiens ont ensuite formé une chaîne humaine tout au long d'un parcours, les conduisant au stade Juste Fontaine. Les élèves de CM2 de l'école de Gueux se sont aussi vus recevoir cette Flamme. Tout au long de l'après-midi, les jeunes ont découvert des disciplines qui seront présentes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, telles que le cyclocross, le tennis de table, l'escrime ou encore le breakdance. Depuis de nombreux mois, le marché hebdomadaire de Vitry-le-François est déplacé sur la place d'Armes et les rues qui l'entourent afin de permettre la rénovation de la halle datant de 1952. Les travaux de rénovation avec mise en place de vitrages sont enfin terminés. Les précisions du maire Jean-Pierre Bouquet.
Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle cathédrale à Vitry-le-François, on l'entend dans notre son, mais finalement ce n'est pas une église.
Non, mais c'est par la forme, par le volume, par le côté aérien, par l'élégance, c'est vrai que j'ai employé cette image, c'est une forme de cathédrale, bien entendu, c'est une image, mais ça donne la dimension du lieu, puisque depuis qu'il est fermé, qu'on a sublimé sa hauteur. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un lieu différent de celui qu'on connaissait avant la rénovation.
Bien sûr, on parle de la halle de Vitry-le-François, construite sous François Ier, mais détruite pendant le conflit, et reconstruite autrement.
À chaque époque, c'est technique. Et donc, la halle au Châtaignier a laissé place en 1952 à une halle en béton, beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus haute, avec sa majesté, évidemment. C'est les techniques d'époque, mais on a tenu également à faire en sorte que dans cette rénovation, il y a un petit côté mémoire, puisqu'on voit des photos de la halle en cours de reconstruction, et on voit aujourd'hui combien les techniques de construction ont changé. Et quand on regarde également sur un autre plan, on voit des hommes sur le toit en train de mettre des tuiles dans des conditions où aujourd'hui on ne pourrait plus l'accepter. Tout ça montre que, vous voyez, on a construit des moyens modernes, le béton permet une plasticité, côté aérien, puis le travail du béton, c'est le travail des hommes, et le travail des hommes a beaucoup évolué depuis les années 50.
Des propos recueillis par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. La halle va accueillir son premier marché de Noël le week-end prochain. Quant au marché hebdomadaire, il se poursuivra encore pendant quelques semaines sur la place d'Armes et son pourtour. Rendez-vous que vous pouvez prendre dès maintenant pour jeudi soir 20h15 au monastère des Clarisses de Cormontreuil. Les sœurs vous invitent à venir vivre avec la communauté la veillée de prière pour la solennité de l'Immaculée Conception. Après la publication du rapport statistique annuelle du Secours catholique il y a quelques semaines. Dernière rencontre non exhaustive ce soir des personnes accompagnées par la délégation Marne-Ardenne. Fatih était d'abord bénéficiaire avant de devenir bénévole. Elle nous raconte son histoire.
Je me suis présentée au Secours catholique pour justement avoir un appui parce que j'étais un petit peu perdue, seule avec mes 4 enfants. Voilà, donc c'était le seul refuge pour moi. Et voilà, comme je m'attendais d'ailleurs, j'ai été bien reçue. Il y a vraiment une bienveillance au sein du Secours catholique. J'ai été écoutée et cet esprit m'a donné de la force justement pour aller de l'avant et pour continuer à me battre parce que sincèrement, seule avec 4 enfants, c'est pas facile.
Reconnaissante envers l'association qui l'a aidée et qui lui a permis d'avoir aujourd'hui un emploi en tant qu'aide à la personne, c'est avec beaucoup de gratitude qu'aujourd'hui, à son tour, Fatih s'est engagée comme bénévole au sein du Secours catholique et que chaque mois, elle verse un don.
Malgré que c'est des salaires vraiment, c'est-à-dire minimes, mais pour moi c'est énorme parce que ça m'a permis d'intégrer encore davantage la société. donc comme signe de gratitude, sincèrement, chaque fois que je reçois mon salaire, je verse 15 euros pour le compte du Secours catholique, parce que je sais très bien que cet organisme a besoin de cet argent, parce qu'ils font des choses merveilleuses. Le fait d'assister à des retours positifs et le fait de voir les gens, comment ils reçoivent leur chèque pour s'en sortir, cette joie, elle est énorme. Donc, j'ai essayé de contribuer symboliquement, mais pour moi, c'est énorme.
Des propos recueillis au micro de RCF France-Ardenne. 18h35, on est en pleine semaine, mais l'agenda des sports est bien fourni. Aujourd'hui, c'est Manon Bréval qui vous le présente. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis. Et oui, plusieurs rendez-vous capitaux ce soir. À 19h, les Flammes Carolo se déplacent sur le parquet de Chartres pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de basket féminin. La qualification se joue sur un match sec. Le Champagne Basket peut de son côté accéder à la finale de Leaders Cup Pro B. Pour ça, il faudra renverser Lille dans le Nord. L'Alliance champenoise part avec un retard de 5 points, coup d'envoi à 20h. À la même heure, en volley, Chaumont recevra Paris pour la 10e journée de Ligue A. Et puis il y aura aussi du football ce soir, puisqu'en Ligue 2, Troyes reçoit Amiens pour le compte de la 17e journée. Coup d'envoi à 20h45.
Merci Manon, on vous laisse souffler le temps d'un jingle, comme on lit dans le jargon de la radio, et place à la météo, c'est toujours avec vous. Quelles sont les tendances pour la journée de demain, mercredi Manon ?
Alors pour demain, les tendances seront nuageuses avec du brouillard à Rethel. Le mercure de vos thermomètres descendra au minimum à 2 degrés et grimpera à son apogée à 4 degrés. L'après-midi se réchauffera avec un ressenti de 5 à 6 degrés. Le ciel, quant à lui, restera nuageux. Les Sparnassiens seront chanceux, quelques éclaircies sont prévues. Une légère brise vous accompagnera tout au long de cette journée. Demain, n'oubliez pas de lécher vos chaussures dehors, la Saint-Nicolas est là.
Merci Manon, une météo toute en poésie. On se joint à vous pour souhaiter à tous les Nicolas une bonne fête, en espérant en ce jour si spécial plein de chocolat pour petits et grands gourmands ou d'autres sucreries. D'ailleurs, demain soir, Jacques Terret, qui sera aussi notre invité à 7h et 8h sur RCF France-Ardenne, reviendra sur les traditions et coutumes de la Saint-Nicolas en région. Et puis on a une pensée aussi ce soir pour Mélanie, une auditrice un petit peu particulière, Manon.
Oui, ma maman.
Eh bien voilà, vous pouvez l'embrasser, votre fin de stage approche, vous n'en ferez plus tant de direct que ça d'ici vendredi. Si vous voulez faire un petit bisou à l'antenne, c'est le moment ou jamais.
Bisous maman.
Voilà, le message est passé, 18h38 sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et peut-être, Manon, que votre maman vous y a emmené lorsque vous étiez petite. On part à Sept-Sceaux entre Châlons en Champagne et Reims afin de découvrir l'univers du Père Noël à Greenyland avec la directrice du parc, Laurence Martin. C'est avec Christopher.
Bonjour à tous. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, le Père Noël se balade dans notre territoire à travers les différents marchés de Noël, les animations de Noël, mais aussi le Père Noël s'installe dans, eh bien, son magnifique chalet de Greenyland à Sept-Sceaux, entre Châlons, Champagne et Reims. Pour nous en parler, Laurence Martin, qui est la responsable du parc Greenyland à Sept-Sceaux. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
Merci de prendre ces quelques minutes aujourd'hui depuis Sept-Sceaux pour nous parler de l'univers du Père Noël ici à Greenyland. Un rendez-vous qu'on a l'habitude de présenter sur RCF, c'est un rendez-vous incontournable pour les Marnais.
Oui, et pas que les Marnais, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui viennent d'autres régions et qui viennent vraiment voir l'univers du Père Noël, parce que dès l'entrée, on est plongé dans l'univers du Père Noël.
Alors, on rentre dans ce parc Greenyland, on fait quelques pas, on retrouve la salle de restaurant avec, eh bien, le côté goûter, mais on en parlera juste après. Et puis, juste après, on continue quelques mètres et on prend la direction du chalet, un grand chalet à Sept-Sceaux.
Oui, un grand chalet. Alors, il faut évidemment prendre rendez-vous avec le Père Noël. Et là, à votre arrivée, vous êtes accueillis par quelqu'un à l'entrée du chalet qui vous donne toutes les consignes pour rentrer dans le chalet. Et dans chaque pièce, il y a un décor différent avec un lutin qui vous raconte une histoire jusqu'à la rencontre avec le Père Noël.
Pour un spectacle qui va durer aux alentours d'1h15, un spectacle qui Et pour les petits, on a souvent l'habitude de dire ça, mais en fait, pas seulement. Hein. C'est vraiment un spectacle ouvert à tout le monde.
Oui, bien sûr, des fois, il y a des adultes qui viennent qu'entre adultes. Et on remarque de plus en plus que les adultes aiment transmettre des petits secrets à leurs enfants. Parce que dans cette grande maison, comme c'est évidemment c'est chez le Père Noël n'est pas tout jeune. Et durant toute sa vie, il a collectionné des tas d'objets de toutes les générations. Et donc les adultes sont contents d'expliquer aux enfants des objets qui leur rappellent leur enfance.
Comme quoi par exemple ?
Tout simplement la machine à écrire.
Ah oui.
Oui, tous les enfants ne savent pas ce qu'est une machine à écrire.
Et puis c'est l'occasion pour les enfants déjà de découvrir le travail des lutins, parce que dans ce chalet, eh bien, on travaille à l'approche des fêtes de fin d'année et on retrouve déjà des piles de cadeaux, de jouets.
Ah oui, oui, les lutins sont très très occupés. Hein. Entre la réception du courrier de tous les enfants, après il faut qu'ils fabriquent le papier cadeau, qu'ils emballent, qu'ils fabriquent les jouets. Ils sont très occupés et puis aussi ils sont très occupés à faire la sieste et à manger des gaufres et des crêpes.
Il y a ce spectacle qu'on vient de présenter et puis il y a ce temps convivial entre guillemets autour d'un petit goûter.
Oui, dans la salle à manger du Père Noël, c'est donc le restaurant. Là, les gens aiment bien se retrouver en famille, se poser, soit autour d'un bon chocolat chaud avec des crêpes et des gaufres qui sont faites devant vous. Elles sont faites maison. Et c'est vrai que c'est un temps agréable de se poser, de se retrouver et de pouvoir échanger, discuter dans un endroit convivial.
Jusqu'au 28 décembre cette année.
Oui, bien sûr, hein, c'est donc un spectacle immersif, hein, on est vraiment complètement dépaysé. Et là, c'est donc en ce moment tous les mercredis, les samedis, les dimanches. Et à partir du 23 décembre, tous les jours sauf le 25, hein, bien sûr. Et après, on recontinue le 26, 27 et 28 décembre.
Alors, pour plus d'informations, réservations, site internet, réseaux sociaux ?
Oui, bien sûr, là, on en a dit beaucoup, mais le mieux, c'est soit de nous appeler pour avoir des renseignements au 03 26 03 24 91 ou bien aller sur notre site internet pour réserver. Voilà.
Merci, Laurence, pour ces informations. Et puis, on invite nos auditeurs à venir avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ou même entre eux, hein, et bien venir découvrir l'univers du Père Noël à Sept-Sceaux, entre Châlons, Champagne et Reims. Merci Laurence, très bonne fête de fin d'année.
Merci, et vous aussi, joyeux Noël.
Et oui, c'est l'esprit de Noël, la musique, on danse, on s'amuse en studio avec Manon, ça y est, elle s'est enjaillée, comme disent les jeunes. Info et réservation sur le site greenland.com. Le 18-19 en Champagne continue.
Le 18-19 sur RCF.
Vous disiez, Manon, j'ai pas entendu à travers le casque, mais n'hésitez pas à répéter ce que vous disiez. Non, Manon veut pas répéter, très bien. Bon, nous, on va rencontrer Franck Talleux, alors, parce que Jean-Pierre nous attend, Franck Talleux aussi. Il est directeur interdiocésain de l'enseignement catholique pour le diocèse de Reims et de Châlons. Entretien au micro de Jean-Pierre, donc.
Franck Talleux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que demain, vous avez un grand rassemblement avec l'enseignement catholique. De quoi s'agit-il ?
Alors régulièrement, nous réunissons tous les chefs d'établissement associés avec l'équipe de la direction interdiocésaine, une fois par trimestre environ, pour vivre un temps de rassemblement et puis traiter des sujets qui sont importants dans les missions que nous portons.
Avec le diocèse de Reims et le diocèse de Châlons en Champagne, c'est un rassemblement de tous les chefs d'établissement.
Voilà, les 54 chefs d'établissement de notre interdiocèse seront présents avec la dizaine de personnes de notre équipe.
Avec la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique. Et le but de cette rencontre, c'est sans doute d'aider, d'une certaine façon, les chefs d'établissement.
Voilà, nous voulons les accompagner dans leur mission et cette fois-ci, nous avons choisi de prendre pour thème quelque chose qui est un peu plus délicat que d'habitude.
C'est-à-dire des situations nouvelles auxquelles les chefs d'établissement sont confrontés, si je comprends bien.
Voilà, exactement. C'est notre Rerum Novarum, la nouvelle du 21e siècle, c'est-à-dire ce qui fait irruption dans la vie de la société, qui arrive dans nos écoles et devant lesquelles les chefs d'établissement peuvent parfois être bien démunis.
Quelles sont les questions, en quelque sorte, qu'on entend toujours parler dans l'actualité, dont vous allez débattre et qui vont peut-être trouver avec l'ensemble de la direction diocésaine des pistes, des solutions pour les chefs d'établissement? De quoi allez-vous parler?
Alors, par exemple, l'interreligieux est quelque chose qui est très présent dans notre société et dans nos écoles aussi. Et nous devons, pour autant, le vivre tout en réaffirmant notre identité catholique. L'intelligence artificielle dans le monde de l'enseignement, c'est aussi quelque chose qui a une place importante. Et puis, des choses qui sont peut-être plus abordées sous un angle souvent idéologique. La question du genre, le spécisme, le consumérisme. Et donc, voilà des sujets que nous voulons aborder sans tabou, mais pour donner des réponses éducatives à ces questions.
Alors il y aura sur le fond, un peu comme dans un cours, j'allais dire une question de cours, j'allais dire quelque chose d'un peu magistral, avec des conférenciers, puis il y aura des débats, des échanges, on imagine.
Voilà.
Donc vous avez pris des chefs d'établissement ou des conférenciers qui ont bossé le sujet, comme on dit.
Voilà, donc quelques personnes qui ont été confrontées sur le terrain à ces questions, qui peuvent en parler d'expérience et d'expertise, et davantage sous le format d'une table ronde. Hein. Donc c'est pas une succession de conférences, mais plutôt un dialogue entre ces personnes.
Hein. Un échange. Alors, en particulier, vous avez une sœur de trois, sœur Odile Bernard, qui, elle, suit plutôt des questions sociétales, on peut le dire, peut-être un peu.
Elle a été confrontée dans son établissement à des jeunes en lycée, des jeunes qui sont grands, parfois même un peu majeurs, qui voulaient engager une transition de genre, par exemple. Et comment se positionner quand on est un éducateur chrétien face à une situation comme celle-là?
Alors, on évoquera donc également toutes les questions de consommation, d'intelligence artificielle, avec un certain nombre d'intervenants, des Clarisses, un pasteur, Sur Geoffroy, le père d'Ilysia qu'on connaît bien ici. Bref, il y a, j'allais dire, plusieurs intervenants. On va prendre quelques questions. Alors évidemment, il y a une question dont on parle beaucoup dans l'actualité, c'est la fameuse question du genre. Alors effectivement, on entend parfois et souvent des garçons qui de temps en temps se disent ben, « je suis peut-être un peu fille », c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, je résume, mais ils peuvent demander à un chef d'établissement d'un changement d'identité. Ça pose quand même question à l'enseignement catholique.
Alors ça pose question. Et ce qui est certain, c'est que nous ne voulons pas donner une réponse simple à une question comme celle-là. Nous voulons nous positionner en éducateur parce que ce sujet, il traverse la société. Qu'est-ce qui correspond à ce jeune à malaise intérieur réel, qu'est-ce qui correspond à davantage un suivi de quelque chose qui est dans l'air, et ça, il faut qu'on se pose la question sincèrement.
En fait, vous faites la distinction entre ce que peut penser aussi l'Église sur le plan de l'anthropologie chrétienne, ce qu'on lit dans la Bible, avec il y a l'homme et la femme, il y a pas le milieu, il y a pas l'intermédiaire, et puis il y a les courants qui traversent, et puis qui traversent aussi la personne, et vous êtes attentif. Très attentif à ce qui se passe, surtout pour des jeunes de cet âge-là qui peuvent vivre un certain nombre de réalités par mimétisme.
Voilà, exactement. On sait hein, qu'aujourd'hui, on a des phénomènes de détransition, des personnes qui n'ont pas trouvé du tout de réponse à cette transition. Mais enfin, notre question à nous, éducateurs et chrétiens, c'est viens avec ta souffrance et ensemble, on va essayer de grandir et de s'approcher du Christ ensemble.
D'ailleurs, vous avez un témoignage, par exemple, sœur Odile Bernard, qui s'est trouvée confrontée à cette réalité dans un lycée professionnel.
Voilà, j'ai toujours trouvé son témoignage très beau parce qu'elle était confrontée à cette question à l'inscription d'un jeune. Donc, est-ce que nos écoles sont ouvertes à tous ou pas? Et donc, elle a réservé sa réponse et elle a vraiment porté, dans le témoignage qu'elle donne par la prière, cela, en passant des temps importants en prière. Et elle a accepté l'inscription en disant, voilà, Seigneur, tu m'envoies ce jeune. Eh bien, j'ai peut-être une parole à lui donner. Et ce jeune, eh bien, est aujourd'hui dans une démarche de demande de baptême.
Ça veut dire aussi que vous êtes attentif à ce qui se passe en sachant que pour des jeunes qui ont un âge d'adolescent, ils peuvent vivre cette période avec des questionnements, mais qu'il ne faut pas toujours répondre trop vite, il faut les écouter, mais les choses peuvent évoluer, peuvent changer.
Mais bien sûr, quand on est adolescent, on est dans l'incertitude. Et d'ailleurs, il faut trouver du côté des adultes des réponses fondées. Voilà. Et une réponse fondée, c'est pas une réponse abrupte. C'est-à-dire, c'est être capable aussi d'expliquer, être capable aussi peut-être de ferrailler un moment, mais de rappeler une vérité, et cette vérité anthropologique que vous appeliez Dieu.
L'anthropologie chrétienne, on l'évoquait tout à l'heure, c'est homme et femme. Ça, pour vous, ça reste, j'allais dire, entre guillemets, la Bible, en quelque sorte, dans l'enseignement catholique, mais avec cette ouverture d'écoute
voilà,
pour le jeune.
Exactement. Dieu créa l'homme, humanité, il les créa homme et femme. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une donnée. voilà, sur laquelle nous devons nous appuyer. Mais l'homme est traversé par des souffrances, par des blessures, par des questions, et nous l'accueillons avec tout cela.
Alors, une question, quand les chefs d'établissement vont entendre ça, ils vont retourner, bien sûr, dans leurs établissements, ils peuvent être confrontés demain à ce type de problème. Est-ce que vous, avec l'enseignement catholique, vous avez, j'allais dire, une brigade, j'allais dire, volante, et qui pourra venir, le cas échéant, aider ce chef d'établissement?
Bien sûr. Alors, déjà, il y a un dossier assez fourni qui a été réalisé par le secrétariat général de l'enseignement catholique sur ce sujet, qui aide les établissements et les chefs d'établissement sur les questions juridiques que cela peut poser.
Il y a eu un groupe de travail là-dessus.
Ah oui, tout à fait, avec des experts. Et nous, à l'échelle de l'interdiocèse, nous avons un groupe de travail local dans lequel nous venons d'intégrer la responsable de notre service de psychologie qui est là pour accompagner les chefs d'établissement, parce que ce sont eux qui ont la réponse, en fait, mais il faut les aider à la trouver.
Alors, évidemment, le temps passe trop vite avec vous, Franck Tadeu, vous reviendrez, bien sûr, mais demain, il ne sera pas question que du genre, vous l'avez dit, intelligence artificielle, mais aussi d'autres sujets sur la laïcité, sur la consommation en période de Noël. Enfin, on aura l'occasion de reparler de tout cela, mais Franck Tadeu, bon, on n'a pas le temps, on en reparlera. En tout cas, très bonne journée demain. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et très bonne semaine.
Merci Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et justement, dans le 18-19 sur RCF, on va à Châlons-en-Champagne. Le cours Saint-François d'Assise propose depuis plus de 3 ans à tous les élèves, parents et enseignants le projet Maison Fraternité, avec 4 temps forts dans l'année scolaire, dont le calendrier de l'Avent du cours Saint-François. Pour nous en parler, Céline Cartier et Arnaud Fayot au micro de Christopher.
Céline Cartier, chef d'établissement au cours Saint-François. Bonjour.
Bonjour Christopher.
Merci d'être avec nous, accompagné d'Arnaud Fayot, adjoint pastoral au cours Saint-François. Bonjour.
Bonjour Christopher.
Ce rendez-vous calendrier d'avant du cours Saint-François fait partie des différents temps forts dans l'année scolaire de ces défis, les maisons fraternité. Est-ce qu'on peut présenter brièvement, Céline Cartier, un petit peu le concept général de ce temps fort du calendrier de l'avant du cours Saint-François?
Oui, bien sûr. Alors, au cours Saint-François, on a une maternelle, une élémentaire et un collège. Et de ce fait, on souhaitait vraiment unir tout ce petit monde, parce que nous sommes sur 3 sites différents. Très proches, mais différents. Et les maisons de fraternité nous permettent cela. Elles sont 6 maisons, sous l'égide de 6 saints différents, de 6 couleurs différentes, et elles regroupent des enfants de la petite section à la 3e.
Donc, quand on dit maison, c'est vraiment un groupement?
C'est un groupement d'élèves, donc entre 60 et 70 élèves regroupés, qui vont avoir, pendant l'année, à relever 4 défis. Des défis qui peuvent être artistiques, sportifs, solidaires, de vraies surprises également, et qui permettent vraiment de faire travailler les enfants ensemble. Alors, il y a 4 temps. Certes, mais on a aussi dans l'année, par exemple l'année dernière, il y avait un défi sur le cycle 3 qui concernait CM1, CM2 et 6e. Et c'était des mathématiques. Il y avait 6 coffres à ouvrir et les élèves devaient collaborer entre eux à résoudre des problèmes mathématiques pour pouvoir trouver le code du cadenas magique. Et ça fonctionne plutôt bien, ça permet de mobiliser les compétences. Et c'est quelque chose qui est motivant pour les enfants, qui leur apprend aussi à mobiliser leur savoir autrement qu'en classe, et c'est une façon à la fois originale et en même temps dans une perspective d'avenir, de leur montrer que travailler ensemble, c'est réussir ensemble.
Donc l'objectif défi, on peut dire fraternel, entre chaque élève, enfin entre les élèves de tous les niveaux du cours Saint-François, accompagné des enseignants aussi?
Et oui, parce que nos enseignants se voient tirés au sort lors de la House Day, et sont répartis dans les 6 maisons également, ainsi que nos AESH, nos ACEM, tout notre personnel. Donc tout le monde appartient à une maison, ça crée aussi quand même, ça fédère, il y a un sentiment d'appartenance qui est grand, et c'est ce que nous cherchions, et quand on entend les petits parler de leurs grands frères de maison, et les grands prendre soin de leurs petits frères de maison, voilà, on sait qu'on a réussi quelque chose.
Arnaud Fayot, adjoint pastoral, avec nous aujourd'hui sur RCF également pour nous présenter ces défis fraternels qui se déroulent tout au long de cette année scolaire au cours Saint-François. Objectif, on peut dire, missionnaire à la fois. On rentre un petit peu concrètement dans le projet missionnaire de Mgr Touvé, prophète de l'espérance. On essaie de renouer les liens, de créer des liens entre tous les élèves de chaque niveau. C'est un peu ça l'idée.
Exactement, Christopher. Alors effectivement, l'idée, c'est de créer du lien, c'est de faire vivre la pastorale, non pas comme une option, mais dans tout ce qui se vit dans les établissements. Et puis, projet missionnaire, parce que on se rend compte que on a nos jeunes, et on arrive assez facilement à leur faire vivre des choses au sein du cours Saint-François. Mais la communauté éducative et la communauté de l'établissement, ce n'est pas que les jeunes, c'est aussi les enseignants, c'est aussi le personnel, et puis c'est aussi les parents. Pour ce défi de l'Avent, de notre calendrier d'Avent, on a réfléchi à comment associer les familles, et on va le dire peut-être un peu tout à l'heure, mais on a préparé des petits défis pour les parents, qu'ils puissent relever et apporter leur contribution. Voilà.
Donc oui, on le confirme, les parents sont intégrés dans le projet du vivre ensemble.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, en début d'année, on a fait une marche à l'Épine à l'occasion de la messe de rentrée avec Monseigneur. Et les parents étaient invités à venir marcher avec nous. Et les parents qui ont marché ont fait gagner des points. Alors on a une petite monnaie locale chez nous, ça s'appelle les fioretti par rapport à Saint-François d'Assise. Et les parents ont fait rapporter des fioretti à la maison de leur enfant.
Ça permet d'apprendre à gérer aussi sa propre monnaie aussi.
Exactement.
Faire des économies. Céline Cartier est toujours avec nous aujourd'hui sur RCF, chef d'établissement au cours Saint-François. On revient un petit peu sur le déroulement de ces défis fraternels qu'on présente depuis quelques minutes. Qui organise concrètement ces maisons fraternité et donc ce calendrier de l'Avent qui fait partie des temps forts de l'année scolaire?
Alors, c'est un énorme travail d'une part, et je le souligne, et ce sont les enseignants du premier degré et du second degré qui se répartissent dans 4 commissions. Et ces 4 commissions ont pour mission d'élaborer les défis.
Alors, quel genre de défis?
Alors, comme on disait tout à l'heure, quand on voit par exemple le défi de l'Avent, ça a mobilisé les enseignants de nombreuses soirées. Ça mobilise de savoir quel matériel va être utilisé, quelles sont les ressources que l'on a, les personnes qui peuvent être également personnes ressources. Là, on a la chance d'avoir Marie-Christine Vanet qui va intervenir et qui va apporter son témoignage. Il faut aller chercher les personnes ressources. Nous avons pu contacter Madame Bourbrock afin de lui demander si nous pouvions déposer la crèche à Saint-Alpin, et elle s'est rendue immédiatement disponible et a acquiescé, parce que en plus Saint-François d'Assise est le cœur du sujet sur le Noël des crèches, donc c'est vraiment quelque chose qui va bien. Alors l'objectif à terme, ce sera également d'intégrer les élèves dans la démarche. On en avait parlé tout au début. Faut pas oublier que ce projet, c'est notre 3e année seulement, donc tous les ans on apporte des éléments supplémentaires.
Des nouveautés.
Et on part de... Enfin, voilà, moi, je trouve
on
les
part
enseignants...
De rien. On part de rien et puis on crée des choses...
Voilà,
et
ils ont toujours mille idées. Et dire oui, finalement, c'est... Pour moi, c'est plus facile. C'est un vrai bonheur.
Un vrai bonheur de réaliser ces défis fraternels. Oui. Et puis, on est maintenant dans ce temps fort du calendrier de l'Avent du cours Saint-François, et on prépare justement Noël pour les jeunes. Oui. C'est un peu l'occasion aussi, ces défis.
Alors, l'idée, c'est vraiment de les mettre... On est dans la période de l'Avent, de les préparer à ce que sera Noël et ce que Noël doit représenter. De ne pas oublier également... les grands temps forts de ce moment de l'Avent. Dans ce que disait Monsieur Feillot tout à l'heure, de partager avec les familles, les défis qui vont leur être proposés sont également agrémentés de zoom sur des points importants qui traversent le calendrier de l'Avent. Donc ça a du sens pour les parents, pour les enfants, pour nous. Et quelque part, les parents nourrissent aussi leurs enfants et leurs familles en participant avec nous à ce grand défi.
Arnaud Fayot.
Oui, exactement. Mais c'est vrai que il y a des temps qui marquent l'Avent. Il y a des fêtes, notamment la Saint-Nicolas, l'Immaculée Conception. Donc, on a préparé des petits défis. Je peux pas trop en dévoiler, mais on a préparé des défis en lien avec
la surprise.
Voilà. Avec le temps liturgique, bien sûr.
Eh bien, voilà. On aura hâte de découvrir toutes ces petites surprises. Et puis, la Saint-Nicolas, ça arrive très vite puisque c'est demain. Manon, vous allez laisser vos chaussures dehors?
Alors, je suis à l'internat. Ça risque d'être compliqué sur le bord de la fenêtre.
Peut-être sur le palier de votre chambre.
Ah, peut-être, mais bon, il fait un petit peu froid, hein, je vais pas vous le cacher.
Et puis surtout, est-ce que les copines vont venir garnir les chaussures avec des petites friandises?
Alors vous savez, il y en a, elles ont des placards, c'est une épicerie complète, donc ça ne m'étonnerait même pas.
Bon ben on a hâte de voir ça, vous nous en direz tant, et puis surtout n'hésitez pas à partager d'ailleurs, il faut le dire aussi à nos auditeurs, vous faites partie intégrante de la rédaction, vous nous avez ramené cette semaine des très bons cookies que vous avez fabriqués maison tout au long de ce week-end, ils étaient très très bons, et on les partage comme ça avec nos auditeurs, mais nous seulement de manière orale. Merci Manon d'avoir été avec nous jusqu'à 19h aujourd'hui, et puis on vous retrouve demain dans le magazine régional, 18h10 ce mercredi, où on parlera évidemment des légendes de la Saint-Nicolas avec Jacques Terret, entre autres actualités. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui prend le relais. Bonne soirée Manon.
Bonne soirée Alexis, bonne soirée à toutes et à tous.
Et Stéphane Brigironnet à la mise en onde. Prenez soin de vous, à demain.